On dit de certains secteurs de notre agroalimentaire qu'ils sont victimes de ce nouveau guide alimentaire. On a tellement entendu parler des produits laitiers et des viandes rouges. Pourtant, il y a d'autres types d'aliments et boissons que l'on doit cibler en priorité et qui sont vraisemblablement les grands responsables des principaux problèmes de santé dans notre société. Peut-être même devrions-nous concentrer les efforts à lutter contre un grand ennemi, le sucre. L'obésité qui se généralise dans notre société, je devrais dire dans les sociétés nord-américaines, est due pour beaucoup au sucre, à l'abus de sucre, et probablement bien davantage que la consommation de gras saturés. D'ailleurs, des recherches récentes sont moins catégoriques qu'il y a quelques années à propos des méfaits des gras. Mais bien sûr, et cela est vrai dans à peu près tout, il ne faut pas abuser. Et que dire du diabète qui gagne sans cesse du terrain? On ne peut oublier, bien sûr, les maladies cardiaques. Ce qui me fait sourire à entendre beaucoup de commentaires sur le guide alimentaire version 2019 est que l'on conclut souvent que, enfin, nous allons bien manger. Le guide alimentaire n'est pas une loi, il n'est pas contraignant. Et il serait appuyé sur des mesures coercitives que leur application serait une opération impossible. Les seuls cas où on peut penser que le guide sera une référence obligatoire, ou disons plutôt une référence plus systématique, sont ceux des institutions comme les écoles ou les hôpitaux, où les responsables de l'alimentation auront pour directive d'orienter le travail de leurs équipes sur la base des énoncés du document de Santé Canada. Mais quoi de nouveau dans cela? Absolument rien. Les institutions avaient déjà pour pratique de suivre les recommandations des versions précédentes du guide alimentaire. Est-ce à dire qu'auparavant, le guide alimentaire n'était pas bon? Absolument pas. Mais le guide, dans la société en général, est très peu suivi. Louise Lambert-Lagacé, réputée diététiste clinicienne, constate que le guide alimentaire, effectivement, n'est pas suivi. Et elle ajoute que si on l'avait suivi correctement, il n'y aurait pas l'obésité que l'on retrouve dans notre société. Elle dit aussi que ce n'est pas le guide alimentaire qui a fait diminuer la consommation de viande rouge. Écoutez vous-même ce que dit Louise Lambert-Lagacé et que vous avez peut-être entendu sur mon blog ces dernières semaines.
Moi, j'avais calculé que ce guide-là, si l'adulte suivait les quantités qu'on recommandait, c'était un guide qui fournissait moins de 1500 calories par jour. Si on mangeait tous nos grains entiers, les fruits, les légumes, les produits laitiers, les deux portions de viande ou trois. Donc, on serait resté mince. Mais ça n'a pas été suivi. Et pour moi, quelle est la portée du guide? Bon, il y a une forte image. Quand vous parlez du guide alimentaire, tout le monde sait ce que ça pouvait être. C'est un outil qui est bien pensé. Là, on voit qu'il est plus que pensé, là. C'est crédible. Mais c'est une information qui est parmi beaucoup d'autres informations, puis pour moi, il y a une portée limitée, limitée. Le guide, c'est quelque chose, mais la tendance des consommateurs, c'est autre chose. Et on ne semble pas, dans nos habitudes alimentaires, vraiment suivre. C'est peut-être des fois à notre détriment, là, si je pense au guide 2007 qui aurait pu nous rendre plus en santé. Là, on va voir ce que l'autre guide va nous proposer, mais le consommateur moyen ne semble pas vraiment influencé par le guide. C'est pas le guide qui a éloigné les Canadiens de la viande. Pas le guide. Parce que le guide, il y avait déjà deux à trois portions de viande ou substitut par jour, puis les Canadiens en mangent moins. Mais ça fait longtemps que la viande rouge, les gras saturés, c'est quand même devenu un aliment qui est moins considéré dans l'échelle des aliments santé. Mais c'est pas le guide qui a fait ça. En tout cas, pour moi, c'est la valeur du guide n'a pas tellement d'influence. C'est ce que j'essayais de voir avec les tendances. Des gras saturés, c'est loin d'être conclu dans la recherche. Et est-ce qu'on pourrait faire une différence entre gras saturés qui viennent des plantes et gras saturés d'origine animale? La question des diètes faibles en gras, bien, on sait que ça a été un échec. Alors, dans le fond, on a voulu diminuer les calories et le gras, Puis finalement, les gens se sont lancés dans d'autres choses et ça n'a pas donné. En fait, il y aurait juste peut-être quelques mots à changer dans, surtout d'origine végétale. Si on disait des protéines à la fois d'origine animale et végétale, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des protéines dans le menu. On dit fruits et légumes et menu suffisamment riche en protéines.
Cela dit, le nouveau guide alimentaire canadien sera-t-il cette fois suivi et servira-t-il vraiment à notre bonne alimentation? Santé Canada a rebrassé l'assiette. La moitié de notre alimentation devrait être constituée de fruits et légumes. Ces dernières années, la véritable promotion d'une plus grande consommation de fruits et légumes s'est faite par le canal de la campagne 5 à 10 portions par jour de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes. On en mange plus maintenant, mais pas encore suffisamment. Si on mange plus de fruits et légumes, on mangera vraisemblablement moins d'autres aliments. Mais il faut tout de même des protéines. Le guide suggère maintenant, pour le quart de notre assiette quotidienne, de varier les protéines et de choisir surtout des protéines végétales. On n'exclut pas la viande, mais le nouveau guide lui enlève son espèce de priorité reconnue depuis toujours. Même chose pour les produits laitiers, pour lesquels on dit aussi de donner préférence à ceux qui sont réduits en gras. Ces recommandations n'enlèvent absolument rien à la valeur de ces aliments. Le choix des protéines est important et, à l'évidence, doit être diversifié car, rappelait récemment la diététiste spécialiste du marketing alimentaire, Isabelle Marquis.
Les protéines animales, c'est ce qu'on appelle des protéines complètes. Donc, elles contiennent systématiquement les fameux 9 acides aminés essentiels. Même si le reste de la combinaison est différente d'une viande à l'autre, la base, toutes les protéines animales sont dites complètes, alors que les protéines végétales sont dites incomplètes, encore une fois, parce qu'elles ne contiennent pas tous les 9. Elles peuvent en contenir certains, mais pas la série au complet. Par contre, il y a 3 exceptions dans le règne végétal, et c'est entre autres pour ça que vous voyez autant de produits végétaux qui contiennent ces ingrédients-là. Le soya, le quinoa et le sarrasin sont 3 exceptions de la nature qui sont considérées comme étant des protéines complètes. Donc, elles viennent brouiller les cartes.
Bon, que conclure à propos de ce nouveau guide alimentaire canadien? Pour le moment, je ne vois pas comment cette nouvelle version serait soudainement plus suivie que les précédentes. Si on avait suivi en général les recommandations précédentes, il n'y aurait pas tant d'obésité, le diabète n'aurait pas augmenté en flèche et nos cardiologues seraient peut-être un peu moins occupés. Parce qu'il est nouveau, remodelé, le guide alimentaire réglera-t-il les grands problèmes de santé de notre société qui sont reliés à l'alimentation? Tous les énoncés faits dans le nouveau guide, même lorsqu'il s'agit de données probantes, comme on le dit, a déjà été exposé, constaté et répété. Par exemple, dans les consultations menées par le gouvernement du Québec pour la préparation de la politique bioalimentaire, tout cela a été entendu. La problématique du poids, la montée fulgurante de l'obésité et du diabète, la nécessité de mieux éduquer les jeunes, l'implantation de cours et d'ateliers de cuisine, les avantages d'une saine alimentation. Il faut bien le dire, les consommateurs ont une attitude bizarre face à l'alimentation. Cela aussi a été dit et répété. Ils veulent des aliments sains, naturels, de source locale, sans chimie, pesticides ou OGM. Ils le disent chaque fois dans les sondages. Cependant, au moment de faire l'épicerie, ce qui se retrouve dans le panier ne correspond pas aux réponses données. Au moins 2 choses seront difficiles à changer. Premièrement, l'habitude de choisir un aliment en fonction de son prix. Et, en pleine contradiction avec ce premier constat, l'habitude de manger des mets préparés, des plats tout prêts, réputés pour être gras, salés ou sucrés, choisis à l'épicerie ou achetés au restaurant, et qui coûtent beaucoup plus cher que tout ce que l'on pourrait cuisiner à la maison. Je suis convaincu qu'en éliminant beaucoup de ces choix douteux, mais souvent bien ancrés dans les habitudes alimentaires, on pourrait sans aucun problème continuer de manger de bonnes portions de viande et de produits laitiers, qui ont au moins l'avantage d'être des aliments peu transformés et qui sont source de protéines. À propos de l'environnement, qui maintenant préoccupe aussi Santé Canada lorsqu'il est question d'alimentation, ma vision, très locale au premier regard, permettrait assurément une contribution tout de même importante à l'amélioration générale de la santé de la planète. La production bovine est peut-être la plus polluante, mais si on consomme de la viande produite et préparée localement, on aura réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Une bonne part de la pollution est due au transport des animaux vers des abattoirs à l'extérieur du Québec, voire du Canada, et au transport sur des centaines de kilomètres encore pour le retour de la viande sur notre marché. Si on abandonne nos achats de bœuf élevés dans l'Ouest, on compensera toute la pollution due au transport en produisant ici la viande en question, selon des règles de plus en plus strictes de protection des milieux et des ressources comme l'eau et, bien sûr, en abattant les animaux en question sur notre territoire. Évidemment, l'assiette doit être complète. Alors, oui, bien sûr, ajoutons à cela des grains, des noix et beaucoup de fruits et légumes. En terminant, même si je pourrais en parler encore longtemps, il y a autre chose que l'on entend depuis des années, chaque fois qu'un organisme se préoccupe publiquement d'alimentation. Ce n'est pas le guide alimentaire qui l'invente et cet énoncé donc est le suivant. Pour vivre en santé, il faut une alimentation saine et variée. Éviter les abus de toutes sortes, il faut bouger, faire de l'exercice, être heureux pour mieux contrôler les pulsions alimentaires et partager les repas et même de façon plus large, partager la ressource alimentaire. Au revoir.